émission présentée par Fabrice Coustet sur Bâti Radio.
Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième numéro d'En attendant Interclimat avec toujours les mêmes. On ne change pas, une équipe qui gagne. On est ravi d'accueillir Hugues Engens. Bonjour Hugues.
Bonjour Fabrice.
Voilà, on va faire une émission un petit peu spéciale concernant ce mois-ci la qualité de l'air. On en parle beaucoup ces derniers mois. Vous avez souhaité effectivement faire à nouveau un plateau, un beau plateau, j'allais dire, sur ce sujet brûlant.
Oui, ce ne sera pas uniquement le seul thème abordé aujourd'hui, mais c'est un vrai, vrai bon thème qu'on retrouvera évidemment sur le salon Interclimat. Et puis bon, effectivement, avec la période du Covid, on a tous été sensibilisés à la qualité d'air à l'intérieur des locaux. Donc voilà, on va en parler.
Ouais, parfois plus pollué justement que l'extérieur. On va avoir des solutions pour prévenir l'ensemble de ces risques et avoir une meilleure qualité d'air à l'intérieur. Alors, je vous parlais d'une équipe qui gagne, on ne la change pas. On est donc en compagnie de Violaine Olga. Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Dans un instant avec vous, on va découvrir les coulisses du salon Interclimat. Vous êtes chargé de communication chez Uniclimat et responsable technique filtration et épuration pour la qualité de l'air. Donc c'est un sujet que vous maîtrisez bien.
Ah oui, à force.
On va démarrer avec les awards de l'innovation, une rubrique où on va découvrir LG Electronics. Alors on va les découvrir sous un angle LG, on connaît tous, sous cet angle de la téléphonie notamment. Alors ils sont désengagés en tout cas des produits électroniques en particulier, énorme conglomérat coréen, avec Johan Roy. Bonjour Johan.
Bonjour Fabrice.
Directeur général, directeur commercial de LG Electronics. Effectivement, avec vous, on va voir justement que vous revenez en force sur la ventilation. On a pu voir certains, effectivement, climatisation. On a pu voir pas mal de climatiseurs avec ce nom LG. Petit en France, mais qui est en train de grappiller des parts de marché.
Avec l'ambition effectivement de grappiller des parts de marché.
Ouais, et quand je dis ça, c'est qu'on voit beaucoup à l'étranger, si on se balade dans des pays un peu plus chauds ou qui nécessitent beaucoup de clim. On continuera avec l'exposant du mois. On est ravis d'accueillir Bernard Avalé. Bonjour Bernard.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur général de Swegon.
C'est ça.
Qu'on va découvrir dans quelques instants. Notre expert, il est à distance. On accueille Benoît Golas. Bonjour Benoît.
Bonjour.
Chargé d'affaires au Centre Technique des Industries Aéroliques et Thermiques, le CETIAT, et vous êtes en particulier au sein de la direction études et prospectives des systèmes aéroliques.
Exactement.
Voilà. Bonjour. Et on sera en compagnie un petit peu plus tard de notre partenaire du mois, Pascal Housset, président de l'Association française de la ventilation AFV, pour rester dans le sujet. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, on passe aux coulisses.
En attendant Interclimat. Les coulisses.
Les coulisses avec Violaine. Violaine, je le disais, vous êtes chargée de communication chez Uniclimat et on fait un focus chaque mois sur cette préparation, cette animation du salon 2022 avec ce mois-ci l'espace qualité d'air intérieur. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer autour de ce thème.
Alors oui, c'est pas une nouveauté sur le salon, c'est quelque chose que nous faisons dans la durée maintenant, donc dédier un espace au cœur du salon autour de la qualité d'air intérieur. Et c'est d'abord c'est une demande, c'est grossissant, on l'a évoqué par rapport à des problématiques Covid, mais c'est surtout que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'actualité et qu'il est bon au cœur du salon de s'arrêter et de prendre un peu la température de qu'est-ce qu'on aurait loupé et qu'est-ce qu'il faut apprendre avant de repartir du salon.
Bon, alors évidemment, on va pas tout dévoiler ici, mais justement, comment va s'organiser cet espace qualité d'air intérieur ? Qu'est-ce qu'il va comprendre ?
Alors, il est composé de deux espaces qui sont collés, vraiment, vous ne pourriez pas les louper. Ils sont donc au cœur, et puis comme on a pu les placer très en amont, vous aurez non seulement cet espace donc, avec un forum et un atelier, mais en plus, une majorité des acteurs de la qualité d'air qui se sont positionnés autour. Donc, vous aurez une zone qui sera une zone d'affluence pour traiter le domaine. On peut peut-être commencer par le forum.
Allons-y.
Le forum, c'est à peu près, on va retrouver 40 conférences à peu près, donc des experts, ça peut être des fabricants, ça peut être des partenaires. Dans tous les cas, ils sont exposants ou très très proches de nos domaines. Ils viennent proposer un produit, une solution, le résultat d'une étude, un service, enfin peu importe. À partir du moment où en 20 minutes, ils arrivent à traiter leur sujet pour laisser la place aux autres, parce que ce sera très très dynamique.
Ouais,
il
ne
faudra pas louper
hein,
son créneau.
C'est pratiquement un pitch là que vous leur demandez.
Mais oui, presque. Mais oui, parce qu'il faut laisser la place à beaucoup, ouais, beaucoup d'interlocuteurs. Garder les gens une heure pour traiter d'un sujet quand bien même passionnant, mais sur un salon, on s'adapte. On n'a pas forcément le temps de garder tout le monde une heure. Donc 20 minutes, et puis on aura fait le tour d'un certain nombre de sujets sur ce domaine-là.
Vous allez mettre une cloche, un gong à la fin des
20
minutes.
Oui, mais ils auront quelqu'un avec un panneau. Attention, il vous reste 5 minutes.
Bon, très bien.
Non, ça va être très rythmé.
C'est bien, et en général, ça permet comme ça de voir plusieurs intervenants en une heure entre deux conférences, par exemple. On a également, à côté du forum, un atelier. En quoi ça consiste ?
Alors, les ateliers précédemment sur le salon Interclimat consistaient plutôt à de la manipulation. On venait toucher pour de vrai, faire de la mesure de débit, des choses comme ça, très pratiques, très didactiques. Là, on change un peu, on innove. On va proposer un peu ce qu'on appelle les serious games, les jeux sérieux. Mmh. En gros, vous êtes dans le métier de l'HVAC, et puis vous vous posez des questions, vous voulez un peu savoir si vous êtes toujours en phase avec la réglementation, savoir si vous avez bien tous les bons réflexes. Et si vous êtes installateur, fabricant, maître d'ouvrage, vous avez forcément une question sur la qualité de l'air. Et là, on aura deux façons de le traiter avec des partenaires. Donc, on va voir l'AFV, l'Association française de ventilation, qui sera partenaire de cet espace atelier. Nous aurons également l'AQC, l'Agence qualité construction, qui a fait un gros travail sur ce domaine-là et qui nous met à disposition des outils pour animer ces serious games. Et comme on a beaucoup de partenaires sur ce domaine, eh bien, ce sera pas uniquement animé. Donc ça, c'est un espace entièrement Uniclimat, hein, mais ce sera pas forcément animé que par Uniclimat ou l'AFV, mais d'autres partenaires viendront et ce seront des temps d'échange, des temps de partage autour toujours de la qualité d'air, des innovations, de l'information, enfin voilà, un lieu de rencontre.
Voilà, en tout cas, c'est intéressant, on précise, hein, de l'animation, vous l'avez dit, lieu de rencontre, du très sérieux avec ses pitchs et puis du serious game, on joue et on sait qu'on apprend beaucoup justement en s'amusant. Donc en tout cas, bravo pour cet espace, on a hâte de le découvrir. Tiens, toujours dans les coulisses, Hugues, on a envie d'avoir un petit peu d'informations depuis cette nouvelle dernière émission. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que le salon est déjà rempli ou il reste quelques places?
Ah, il n'est pas encore rempli, mais c'est en bonne voie. Comme on le disait la dernière fois, on pense jouer à guichet fermé avant le début du salon. Mmh. Et puis là, on entend beaucoup parler, bon, avec la guerre en Ukraine, il y a un sujet qui revient sur le devant de la scène, c'est l'autonomie en énergie de la France. Ben, on aura un thème qui sera développé autour des gaz verts, la méthanisation, l'hydrogène. Voilà, ça, je pense que ça va être un des thèmes. Mmh. C'était prévu pour être un des thèmes importants du salon, et l'actualité fait qu'on va être en plein dedans.
Ouais. Coup d'accélérateur, effectivement, sur l'ensemble de ces énergies. On le sent, le mix énergétique doit évoluer. On ne peut plus être complètement indépendant de quelques fournisseurs, notamment quand il y a ces phénomènes géopolitiques qui se produisent. Ça va être un coup de boost, vous le pensez, pour la filiale? Là, vous sentez qu'il y a eu peut-être des gens qui sont venus vous voir, qui ont dit,
je pense qu'il pouvait y avoir des gens qui doutaient un peu de la méthanisation et de l'introduction de gaz vert dans les réseaux en France, mais là ça va revenir sur le devant de la scène. Mm-hmm. Et les objectifs, peut-être qu'on verra, ça c'est les politiques qui le diront, mais peut-être qu'on aura un coup d'accélérateur sur la méthanisation et plus de gaz vert dans les réseaux, quoi.
Et l'hydrogène? Également.
Et l'hydrogène également, c'est une autre piste, hein, qu'on peut produire de différentes manières. Alors là, je suis pas un spécialiste, mais je vous invite à venir sur Interclimat, ouais, justement, on en parlera.
En tout cas, on voit que l'actualité, voilà, télescope aussi, l'actualité du salon. En tout cas, il y aura sans doute beaucoup d'informations et il reste quelques mois pour le préparer. On espère que d'ici là, évidemment, le conflit aura une forme, sera peut-être pas résolu, mais en tout cas, on aura avancé. On va pas s'avancer sur ce terrain-là. Je vous propose tout de suite, nous, de continuer et on va accueillir dans un instant le partenaire.
En attendant Interclimat, le partenaire.
Le partenaire du mois, Hugues, je vous laisse nous le présenter.
Eh bien, le partenaire du mois, c'est l'Association française de la ventilation, hein, une nouvelle organisation de filières, comme il en existe d'autres dans le secteur, pour les pompes à chaleur, par exemple, ou pour les énergies renouvelables. Donc là, l'Association française de la ventilation, sur le domaine de la ventilation, comme son nom l'indique, et qui sera présente sur Interclimat, donc avec, au sein de l'espace qu'a présenté Violaine tout à l'heure, une présence, pour la première fois sur le salon, mais sur un vrai sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Mmh. Et donc, on a invité Pascal Housset, le président de l'association, à nous rejoindre sur cette émission.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Donc, président de cette association française de la ventilation, président également de l'UMGCCP. Qu'est-ce que c'est que cet acronyme?
Eh bien, c'est l'union des métiers du génie climatique, la couverture et la plomberie au sein de la Fédération française du bâtiment. Donc, c'est l'union métier qui représente l'ensemble de ces métiers, dont les prestations de ventilation font partie.
Tiens, combien de divisions, là, ce monde, justement, génie climatique, climatisation, ventilation, en tout, on a une idée du nombre d'artisans?
Oui, alors à l'UMGCP, on représente 14 500 entreprises, précisément, ouais, à ce jour.
D'accord, qui sont toutes, on imagine, bien occupées en ce moment.
Tout à fait.
C'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé de ventilation, hein, d'art intérieur. Je pense que tout le monde est devenu expert avec ce méchant petit virus qui est passé par chez nous, dont on parvient difficilement à se débarrasser. Est-ce que ça a été un coup d'accélérateur? Est-ce que, par exemple, vous venez d'interpeller les candidats à l'élection présidentielle sur l'urgence, la nécessité d'un plan national pour la ventilation dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quoi s'agit-il ?
Oui, en effet, parce que là, actuellement, on fait un constat, hein, très clair, c'est que aujourd'hui, il est demandé d'aérer les établissements scolaires, donc ouverture, fermeture des fenêtres, des sondes, des capteurs CO2 un peu partout qui montent dans les tours à plus de 1000 ppm au bout de 30 minutes de classe. Et puis, des surcoûts énergétiques. Aujourd'hui, on est alerté par un certain nombre de maires. Il y a quelques jours, j'étais en une réunion en Seine-et-Marne avec une trentaine de maires qui nous alertaient sur les grosses problématiques d'augmentation des coûts énergétiques de par le coût de l'énergie elle-même, mais aussi le fait d'ouvrir les fenêtres en permanence, sans parler des profs qui tombent malades, des élèves également. Donc, donc aérer n'est pas ventilé, donc on propose d'autres solutions plus pérennes et plus confort pour tout le monde. Mmh. Donc, effectivement, il y a une vraie urgence. Donc, les élus nous disent, oui, ils sont en recherche de solutions techniques, bien sûr. Donc, on a des solutions à proposer, nous, à l'AFV. Et puis, il faut aussi accompagner ces aménagements-là financièrement. Donc, nous, ce qu'on propose à l'AFV, c'est qu'il puisse y avoir un plan de dotation financière spécifique à la qualité d'air intérieur des bâtiments pour les établissements scolaires. Donc, c'est un vrai plan d'urgence qui est nécessaire de mettre en place.
Je reviens à nos chères têtes blondes, bon, collégiens, lycéens un peu plus âgés. L'aération par l'ouverture des fenêtres, elle est aujourd'hui réglementaire. Vous dites que ça ne suffit pas à assurer une bonne qualité d'air intérieur. Voilà, comme vous dites, c'est rien à voir avec la ventilation.
Oui, parce qu'une ventilation, on parle de ventilation mécanique contrôlée. Donc le terme contrôlé, il a vraiment son sens, c'est-à-dire de pouvoir assurer des débits d'air qui soient en phase avec le nombre d'élèves dans les classes. Il y a des règles pour tout ça. Et c'est pour ça que nous avons des propositions très concrètes et aussi avec des solutions techniques qui puissent être mises en place dans ces établissements. Et puis aussi de la maintenance, parce que bien souvent, il y a des établissements où il y a des systèmes qui existent, mais malheureusement, il n'y a pas de maintenance de mise en place, ou pas suffisamment en tout cas, pour avoir cette qualité d'air intérieur de ces établissements scolaires.
Voilà. Alors, vous recommandez un plan national en 5 points. On peut les parcourir ensemble si vous le voulez. Premier point, recensement exhaustif de l'équipement des établissements scolaires.
Oui, tout à fait, parce que il est nécessaire de pouvoir. Il y a un constat, il y a des remontées, mais il faut faire un véritable le point de les établissements où on en est, quoi, finalement, sur ce parc. Donc ça, c'est déjà de savoir de quoi on part, quoi. Ça, ouais. C'est le point de départ.
Est-ce qu'ils sont équipés ou pas, finalement, ces établissements? On a une idée justement du taux d'équipement. Certains ont un système de ventilation. On pense peut-être aux bâtiments les plus récents, les plus anciens. Ça doit être un peu compliqué.
Oui, c'est ça. De toute façon, c'est plus de 50% aujourd'hui de, d'établissements qui sont pas équipés avec des systèmes. C'est-à-dire que parfois, il y a eu des agrandissements d'établissements scolaires. Donc l'extension, elle, a bien été traitée. Par contre, l'ancien bâtiment d'origine, lui, ne l'a pas été. Donc on a plein de cas, alors divers et variés. C'est pour ça que faire ce point de où on en est sur les établissements, c'est nécessaire déjà de savoir d'où on part. Donc ça va être le point de départ de l'action.
Alors, premier point, donc, ce ressentiment.
On parle de 15% des établissements scolaires qui seraient équipés, mais voilà, il manque. On n'a pas les chiffres très précis, justement, c'est pour ça qu'on demande un état des lieux à
voilà,
un moment donné.
Tout
une
à
espèce
fait.
De cartographie, recensement, en tout cas exhaustif. Bon, ça risque de prendre un peu de temps, quoique. Il faut voir. Donc, voilà pour le premier point. Deuxième point, un pan national de vérification et mise à niveau ventilation.
Oui, alors c'est ce que je disais, c'est la maintenance et faire un peu un audit, hein, si je peux dire, là où il y a des installations qui sont existantes, il faut pouvoir les vérifier, il faut pouvoir auditer si ces systèmes répondent aux critères pour arriver au niveau de satisfaction de la qualité d'air attendue aujourd'hui dans le contexte actuel.
Le point 3, ça sera étendre la réception des installations ventilation dans les bâtiments neufs. Donc ça, sur le neuf, on peut faire des efforts. Même si sûrement il y a un renchérissement des coûts, mais c'est nécessaire, on le sait.
Alors déjà, il y a déjà eu quelques avancées sur lesquelles on a travaillé avec les pouvoirs publics, notamment dans le cadre de la RE 2020, la réglementation thermique 2020, où il y a un process de réception de travaux avec un contrôle des systèmes de ventilation qui est accru par rapport à ce qui se faisait auparavant. Donc on aimerait aller un peu plus loin là-dessus, puisque l'idée et les propositions que nous faisons à l'Association française de ventilation, c'est de faire tout ce qu'on fait dans le gaz finalement et qui fonctionne très très bien, on a très peu de taux d'anomalie, c'est un certificat de conformité ventilation, comme on a aujourd'hui un certificat de conformité gaz. Et ça fonctionne très bien, c'est connu des professionnels, c'est très encadré et ça permet d'avoir un niveau de satisfaction. Rappelons, les installations gaz, c'est moins de 7% de taux d'anomalie au niveau national. Alors que là, on est loin de ça pour l'instant sur la ventilation.
Ouais, alors justement, point 4, obligation de maintenance des systèmes de ventilation mécanisés, donc dans les établissements scolaires. Et puis, je passe au point 5 qui me semble très important, installation d'un système quand le seuil de CO2 est dépassé de manière chronique. Là, vous nous disiez très rapidement, au bout d'une demi-heure en classe, voilà, on atteint des seuils, qu'est-ce qui se passe? Les élèves, ils rejettent du CO2 en masse?
Oui, effectivement, donc là, lorsqu'il n'y a pas de système, donc c'est-à-dire on met les élèves sans récréation, on ouvre les fenêtres, soit on ouvre les fenêtres et les enfants sont encore en classe. Voilà, donc on a des situations. D'ailleurs, que c'est pas très serein, même pour les enseignants, c'est ce qu'ils nous disent. D'ailleurs, pour eux, ils doivent gérer ça en plus du reste, donc c'est pas très évident. On va peut-être en parler par la suite, mais aujourd'hui, on voit beaucoup de systèmes, ce qu'on appelle des épurateurs d'air, qui sont distribués dans les établissements scolaires. Donc, on ne met pas en opposition les systèmes. Mais épurer l'air, c'est pas renouveler l'air, encore une fois. Donc, ouvrir les fenêtres et puis épurer, finalement, on brasse du vent, mais on ne sait pas, ni le renouvellement d'air n'est satisfaisant, ni l'épuration d'air. Donc, ce qu'on propose, c'est déjà de faire des choix qui soient sur des produits dont la performance est reconnue. Donc, il y a une étude qui a été faite, produite par Uniclimat, qui permet déjà de faire le tri dans les épurateurs, sont leurs niveaux de performance de manière déjà à pouvoir faire un tri là-dessus. Après, on peut très bien avoir des systèmes de ventilation, comme on sait le faire dans le milieu médical, dans plein d'autres domaines où on a besoin d'avoir une performance en termes de qualité d'air intérieur et de filtration et d'épuration d'air. Donc il y a des systèmes qui sont combinés, c'est-à-dire qu'on peut ventiler et épurer également l'air. Mais tous ces systèmes-là doivent être adaptés en fonction des besoins et des typologies de bâtiments qu'on doit traiter, bien évidemment.
Le guide sur les épurateurs dans le tertiaire, effectivement, qui vient de sortir, et c'est Uniclimat qui l'a sorti, Violette.
Oui, tout à fait. C'est un point qu'on souhaitait faire sur les épurateurs. On entendait un peu de tout. Et effectivement, comme le disait Pascal, l'arrivée de ces épurateurs dans les écoles, on s'est dit, mais pourquoi pas? Alors d'abord, on apporte de l'air neuf, de l'air extérieur, ça c'est la base. En avant, et c'est donc vraiment ça, c'est dans les premières pages du guide. Hein. Ouais. C'est-à-dire d'abord de l'air neuf, c'est sûr. L'épurateur ne fera pas le job tout seul, hein. Il faut vraiment de l'air neuf. Et après, effectivement, une description, un panorama de toutes les techniques disponibles. Et en fonction de ce que vous voulez combattre comme type de polluant, eh bien, vous pouvez vous orienter vers des solutions qui sont soit des solutions mobiles que vous mettez au fond d'une classe ou dans une salle de réunion, hein, puisque là on parle de tertiaire largement entendu, soit intégrées dans des systèmes. Ça peut être des centrales de traitement d'air, donc de plus importantes, dans la climatisation également. Donc c'est vraiment ce panorama qui doit, à mon sens, permettre d'être une aide à la décision. Donc d'abord, les prérequis, la base, de quoi parle-t-on, de quoi avons-nous besoin. Il faut une étude par un professionnel, on n'achète pas ça par soi-même en disant bah, ça va faire le job. Et je reviens aussi sur le capteur de CO2. Depuis leur arrivée massive, effectivement, dans les classes ou autres, d'abord on savait qu'il y avait des problèmes potentiellement de qualité d'air dans les écoles. Le capteur de CO2 est un indicateur. Donc ça n'apporte pas de solution, mais c'est un indicateur. Mmh. Donc soit d'ouvrir la fenêtre, soit de poser la question sur quelque chose de plus pérenne dans le bâtiment pour répondre à ses besoins. Et moi, je prends toujours l'exemple, si on avait, nous professionnels, une obligation d'être à 30 dans les conditions dans lesquelles nos enfants, les élèves, oui, suivent leurs cours, je vous assure qu'on resterait pas 2 jours de suite dans ces conditions. Donc pourquoi les enfants, les élèves subiraient, je dirais, cet inconfort permanent, alors que nous avons dans le tertiaire, ou même la possibilité à plusieurs endroits, d'être dans de très bonnes conditions, la bibliothèque, le cinéma, etc. Donc pourquoi est-ce qu'ils pâtiraient d'une mauvaise qualité d'air? C'est la question.
Oui.
Oui, et puis au-delà même du confort, il y a toute cette notion également de santé, hein, puisque donc, quand on parle de renouvellement d'air extérieur, qu'est-ce que l'on amène? On amène de l'oxygène. Hein, on a besoin d'oxygène, sur un plan purement physiologique.
Bien sûr.
Donc, ça facilite la concentration, etc. Donc, pour des enfants, à plus forte raison.
Merci Bernard Avalé. Hein, on vous entendra dans quelques instants. Je reviens avec vous, Pascal, justement sur quelque chose qui occupe aussi dans l'actualité, c'est cette élection présidentielle. Donc, vous avez interpellé ces candidats justement sur l'urgence et la nécessité de prendre ça en main. Est-ce que vous êtes entendu?
Alors, entendu, peut-être pas encore suffisamment, écouté, oui, en tout cas. L'Association française de ventilation donc a un certain nombre de membres fondateurs déjà qui sont relativement écoutés au travers des organisations professionnelles et des différentes structures qu'elles représentent. Donc déjà individuellement, ça nous permet de communiquer. Mais c'est vrai que là, le fait qu'on ait une résonance filière, on a une écoute déjà un petit peu un peu différente. Donc on espère bien être entendu. Et finalement, la qualité d'air intérieur des bâtiments n'a pas de couleur politique, hein, elle concerne tout à chacun. Donc c'est pour ça que globalement, on n'a pas de difficulté à communiquer sur ces sujets-là. Bon, on comprend bien qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi des priorités qui font qu'on passe pas forcément au devant de la scène aujourd'hui. Mais néanmoins, la période Covid, même si on entend beaucoup moins parler dans les médias, est toujours présente.
Bien sûr.
Donc sans faire du catastrophisme, mais il faut quand même anticiper et puis peut-être demain d'autres choses.
J'ajouterais juste que ce bruit de fond finalement d'une meilleure qualité d'air dans les établissements, on l'a vu aussi avec la naissance de tout ce qui était réglementaire, hein, d'obligation de surveillance de qualité d'air dans les établissements, et tout ça a fait au fur et à mesure on a pris conscience d'un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que le Covid est un accélérateur, mais il y avait déjà ce bruit de fond. Maintenant nous on dit juste passons à l'action.
C'est ça.
Eh ben voilà, ça sera la conclusion de cette partie. Merci en tout cas, on en sait un petit peu plus sur le sujet. Pascal Housset, vous restez avec nous. On passe tout de suite à notre rubrique Les Awards de l'innovation.
En attendant Interclimat, les Awards de l'innovation.
Vous le savez, chaque mois, on fait la part belle à un lauréat des Awards de l'innovation. Alors, ça remonte, ces Awards, évidemment, au dernier salon 2019. Hugues, on revient sur quel lauréat ce mois-ci?
Eh bien, LG Electronics, on en a parlé tout à l'heure, avec une solution originale L'idée c'était, mais je laisserai Johan nous en parler tout de suite après, mais si j'ai bien compris, l'idée c'était de mettre en adéquation une production d'électricité à un moment donné avec des consommations des appareils, et puis éventuellement de stocker l'énergie sous différentes formes. Donc voilà, ce produit avait été lauréat du concours de l'innovation 2019. Mmh. Évidemment, il y a un nouveau concours pour l'édition 2022. Bon, je ne sais pas
encore. De nouvelles innovations peut-être. On va demander directement à Johan qui est avec nous, Johan Roy, donc directeur commercial France de LG Electronics. Vous étiez lauréat Ugladi 2019 avec ce pack énergie. Vous allez revenir, donc vous serez présent en octobre à la Porte de Versailles.
Bien sûr.
Est-ce que vous allez revenir, vous remettez votre titre en jeu, j'allais dire, est-ce qu'il y a de nouvelles innovations? On l'espère.
On aura de nouvelles innovations à présenter, évidemment. C'est un peu, on va dire, l'ADN d'LG, hein, l'innovation. Donc, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. On est encore en train de choisir quelle innovation on présentera sur Interclimat, parce qu'on a plusieurs projets. Je vais pas vous dévoiler tout de suite les différentes innovations qu'on pourrait présenter, mais oui, notamment dans le tertiaire et notamment aussi dans la qualité de l'air et dans la purification d'air.
Alors justement, dans ces sujets, parce que quand on dit effectivement LG Electronics, on pense à des objets de notre quotidien. Vous êtes partout, notamment dans nos téléviseurs. En tout cas, vous avez pas mal de, des centaines et des milliers de brevets très très forts sur l'électronique de pointe. Et là, vous venez donc pour cette division. Expliquez-nous à quoi ça correspond dans le monde et en France.
D'accord. Donc LG Electronics, gros conglomérat coréen présent dans tous les pays au niveau mondial, surtout un gros ADN, B2C, donc la télévision, l'électroménager.
Les produits blancs, les produits gris.
Voilà, gris. La téléphonie, on s'en est désengagé, mais dans beaucoup de téléphones, vous avez l'électronique LG, notamment les écrans. Et donc toute cette partie B2B dont je m'occupe, qui englobe différentes divisions, donc vous avez la climatisation et le chauffage dont je m'occupe, et puis vous avez aussi toute la partie écran dynamique et derrière le solaire et le photovoltaïque.
D'accord.
Donc cet award de 2019 nous a été décerné puisque c'est une combinaison justement du savoir-faire de plusieurs divisions d'LG. Donc vous avez à la fois le photovoltaïque, les panneaux solaires, les onduleurs, purement de l'électronique, les batteries de stockage, puisque LG a aussi une filiale qui s'appelle LG Chemical au niveau mondial. On est un des plus gros fabricants de batteries, notamment pour les véhicules électriques. Et donc, couplé à ça, les pompes à chaleur, qui aujourd'hui occupent une grosse part du renouvellement du parc des chaudières en France, notamment. Mmh. Où, donc le système consiste à combiner toutes ces technologies et à stocker l'énergie qui est produite par des panneaux solaires, soit sur des batteries, soit sur la pompe à chaleur, c'est-à-dire on l'utilise souvent en stockage sur de l'eau chaude, la fabrication de l'eau chaude sanitaire.
Bien sûr.
Ou sinon de réinjecter cette énergie solaire sur le réseau français. Donc c'était un award, c'était un prototype qui a été lancé en Allemagne notamment. Et cet award nous a permis vraiment, nous LG France, de relancer un peu notre filiale et aussi de montrer un peu toute la technologie qu'il y avait derrière nos produits. Donc cette combinaison, on est un peu le seul fabricant au niveau mondial à combiner toutes ces technologies ensemble.
Oui, avec un large éventail, on s'en rend compte en vous écoutant. 2019, le prototype fonctionnel, et là, depuis un mois, janvier 2022, commercialisation. C'est ça qui vient de se lancer.
On vient de lancer la commercialisation. À faible échelle pour le moment, puisque il y a un gros problème sur le marché mondial, c'est la fabrication des batteries. Oui. Le gros boom des véhicules électriques fait que LG, sa majeure partie des batteries qui sont fabriquées sont dédiées aux véhicules électriques. Donc, dès le mois de juin, on va rentrer sur une production beaucoup plus massive. Donc, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de produits pour le marché français, mais aussi européen. Et donc, dans un deuxième temps, on sort dès septembre une nouvelle génération de batteries vraiment dédiée à ce domaine-là. C'est-à-dire que nos usines vont vraiment fabriquer des packages de batteries pour le stockage solaire couplé dans nos systèmes. Donc, on aura une nouvelle génération de batteries beaucoup plus performante qui va permettre aussi de stocker beaucoup plus. Alors, ça va avec l'actualité, Hugues en parlait tout à l'heure, hein, on va parler de la méthanisation, mais le solaire est aussi une énergie qui va beaucoup se développer, je pense, dans les années à venir. Et un des soucis du solaire, c'est où stocker cette énergie qui est produite, pas forcément au moment où on en a besoin. Donc, il y a un sujet.
Donc, le renouveau, en tout cas, de LG sur le marché français, hein, pompe à chaleur, mais pas uniquement. Des nouvelles innovations, donc, sur le salon, vous nous les avez promis, on ira voir et on vérifiera, bien évidemment. Et puis, vous êtes aussi fabricant de compresseurs frigorifiques, un des premiers au monde.
Au niveau mondial, en fait, le cœur d'un climatiseur ou d'une pompe à chaleur, c'est le compresseur, hein, c'est un peu le moteur d'une voiture. Et on fait partie des trois plus gros fabricants de compresseurs au niveau mondial. Donc, on a une longueur d'avance en tant que fabricant de compresseurs, c'est-à-dire que ça nous permet déjà d'anticiper les changements de réglementation. On a des gaz dans nos climatiseurs et dans nos pompes à chaleur qui sont des éléments polluants en cas de fuite.
Ouais.
Et donc, on est déjà en train de travailler sur des nouvelles générations qui ont un impact très, très réduit au niveau environnemental. Alors, c'est déjà des choses qui existent, par exemple, dans le blanc, dans l'électroménager. Vous avez aussi un compresseur dans votre réfrigérateur. Donc, on est déjà sur des gaz très, très peu polluants. Sur les petits systèmes de clim, on sait déjà faire. Mais maintenant, comment faire sur des gros systèmes? Donc là, en tant que fabricant de compresseurs, oui, on est à l'étude encore sur différents types de réfrigérants. Mais dans les deux années à venir, on va sortir beaucoup de nouveaux produits avec des réfrigérants qui auront un impact beaucoup, beaucoup plus réduit qu'auparavant.
LG Electronics qui accompagne évidemment cette transition et participe à cette décarbonation, il faut, hein, absolument. Et puis oui, ces gaz aussi, effectivement, qui étaient pas terribles, ils sont remplacés, heureusement, et je crois avec la même efficacité, bien évidemment. Hein.
Oui, tout à fait, et même on arrive même à gagner en performance. C'est ça qui est intéressant, parce que à la fois on pollue moins et en plus on restitue plus d'énergie gratuite, on va dire, en ayant des systèmes de plus en plus performants.
Voilà pour le gagnant de l'innovation 2019, un des gagnants LG Electronics, hein, qui on sent est en train de monter en puissance.
Et puis le renouveau d'LG, c'est aussi du coup vous emménager, je crois, dans les nouveaux locaux là. C'est l'actualité du moment.
L'actualité du moment, dès le mois prochain, LG qui était basé à côté de Roissy déménage sur Paris. On intègre des nouveaux bâtiments sur la Défense, et notamment sur tout ce qui est pompe à chaleur et climatisation. On ouvre un centre de formation de 600 m² à la Défense, qui va vraiment nous permettre là d'accompagner nos installateurs, les professionnels de la filière, pour présenter nos produits, nos innovations aussi, et les mettre en situation directement sur site.
Donc 600 m² pour former et
uniquement un espace de formation.
Et puis on pourra voir les produits. Voilà. Évidemment, pour ceux qui souhaitent les découvrir en avant-première. Merci, vous restez avec nous. On passe tout de suite à notre prochaine rubrique, l'exposant du mois.
En attendant Interclimat, focus exposant.
Le focus exposant, on découvre un nouveau participant. Hugues, quel est le participant du mois?
Ben oui, on a sur l'édition 2022 le retour d'un certain nombre de grandes marques. On en a parlé lors d'émissions précédentes avec Poujoula, un adhérent d'Uniclimat. Il y a un autre adhérent d'Uniclimat qui sera présent en 2022, c'est Swegon, représenté par Bernard Avalé.
Bonjour Bernard Avalé, directeur général donc de Swegon France, qui est basé à Saint-Priest, c'est ça?
Oui, alors, donc ça c'est le siège social, mais nous sommes aussi présents donc sur la région parisienne à Rungis et dans d'autres régions. En fait, on couvre l'ensemble du territoire national.
Swegon, ça sent un peu la Suède, tout ça. Fabricant suédois, hein, c'est ça,
c'est
d'équipements de ventilation et de climatisation à destination des bâtiments tertiaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Swegon?
Je crois que vous avez dit un peu l'essentiel. Oui, donc on est suédois, ça fait partie effectivement de notre histoire. Et donc l'entreprise, alors elle est beaucoup plus petite que le groupe LG, hein, puisque donc on fait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 collaborateurs dans le monde, très présent en Europe du Nord, mais depuis quelques années donc très présent aussi bien sûr sur la France. Donc on fabrique bien sûr des produits donc qui vont de la centrale de traitement d'air, on est plutôt assez connu en France sur les centrales Gold. Mais on fait également tout un tas d'autres produits, également donc de la production, des pompes à chaleur, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc pour des bâtiments tertiaires, comme nous l'expliquions. Et aujourd'hui, on développe de plus en plus des systèmes complets, hein, des systèmes beaucoup plus larges, qui vont au-delà du produit, je dirais, donc pour proposer donc une solution globale, hein, avec la régulation, avec un ensemble de points qui permettent effectivement d'avoir un contrôle beaucoup plus précis des équipements HVAC. Donc c'est un petit peu l'avenir pour Swegon.
Très bien. Vous accompagnez aussi les projets de la conception à l'exploitation ?
Oui, alors là aussi, ça fait partie un petit peu de l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est qu'on est là pour durer. On est là dans une volonté pérenne de développement. Et on essaye effectivement de se positionner donc très, très en amont sur les projets. Donc, avec, je dirais, dès le départ du projet. Et l'accompagner tout le long. Donc, y compris donc phase d'installation, bien évidemment. Ensuite, les phases de mise en service. Et puis ensuite, la vie des équipements avec la partie, on va dire, maintenance, etc. Donc, où nous pouvons également proposer un certain nombre, je dirais, de solutions sur l'ensemble de ces étapes.
Très bien. Vous faites partie, en tout cas, comme disait Hugues, des marques qui font leur grand retour à Interclimat en octobre. Vous aviez manqué l'édition 2019. Là, c'est quoi? C'est le fait de revenir à Paris qui vous a motivé?
Alors, il y a différents sujets de motivation. Alors déjà, bon, effectivement, oui, Swegon, on est quand même présent en principe à Interclimat depuis très longtemps. Mais on avait manqué 2019. On était un petit peu, effectivement, peut-être lassé, je sais pas, ou on avait peut-être envie d'essayer d'autres choses. On revient avec grand plaisir sur l'édition donc 2022. Alors on revient pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a tous vécu effectivement pendant 2 ans l'absence de contact physique. On a vu nos clients et nos partenaires, mais toujours dans des situations un peu limitées, et surtout très souvent au travers d'écrans. Vous connaissez tous Teams, donc je vous fais pas de dessin. Donc là, on a un grand plaisir de pouvoir revenir, de rencontrer nos clients, nos partenaires, partager ces moments de convivialité avec eux. N'oublions pas que on est quand même dans le domaine du bâtiment, c'est important la convivialité. Donc ça, c'est un point important qui nous fait très plaisir. D'ailleurs, nos équipes sont extrêmement motivées pour ce salon qui arrive. Au-delà de ça, je dirais donc il y a effectivement donc le retour Porte de Versailles qui est un élément extrêmement positif puisque il va, j'en suis sûr, permettre aux provinciaux de revenir plus facilement à Interclimat, donc que ce qui était le cas les années précédentes. Donc c'est un bon point au cœur de Paris. D'autres points aussi qui nous semblent effectivement importants, c'est le nouveau format, donc avec des stands qui sont peut-être plus formatés, si je puis dire, donc plus limités en termes de superficie, mais qui vont, ce format va permettre une bien meilleure visibilité de tous les acteurs, de tous les participants. Donc ça remet un petit peu, je dirais, là aussi, tout le monde un peu à égalité.
Une volonté, Hugues, d'Interclimat, effectivement, d'avoir des stands assez formatés, c'est-à-dire on aura les mêmes d'un partenaire à l'autre.
Oui, il y a des formats de stands. C'est pas les mêmes, c'est pas une uniformisation complète.
Ouais, mais il y aura pas quelqu'un qui aura la moitié du.
Il y a 6 formats de stands, voilà, et on a limité surtout la surface maximale de stands. Donc le plus gros des stands fera 99 mètres carrés. Bon, le plus gros des stands en 2019, c'était 800 mètres carrés. Bon, on voit un petit peu le changement qui s'est opéré pour l'édition 2022, effectivement. Je pense que c'est une bonne chose à long terme pour le salon. On est déjà dans un format qui est beaucoup plus compatible avec l'avenir, en fait.
Et oui, au moment où on parle de sobriété, qui revient sur le devant de la scène, c'est aussi quand même des stands plus contenus, on va dire. Du coup, parlez-nous aussi de Swegon, qui entame une nouvelle étape de développement en 2022.
Alors oui, donc Swegon se développe, le groupe Swegon se développe depuis pas mal d'années, je dirais, sur un taux de croissance de 10-15% par an. Donc ces dernières années, donc Swegon s'est beaucoup développé dans des pays voisins, je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre. Donc maintenant, c'est un petit peu le tour de la France, on est présent depuis longtemps, mais on a vraiment là de grosses ambitions de croissance sur l'Hexagone. J'en suis absolument, donc évidemment le porte-parole auprès du groupe en Suède, vous le comprenez bien volontiers. Et donc c'est vrai que 2022 est un petit peu donc ce point de, je dirais, de bascule où on va vraiment donc parler un petit peu plus de Swegon.
Voilà, un développement donc en Europe, vous l'avez dit, en Angleterre, en Allemagne, fortes ambitions en France avec le développement d'une approche, une nouvelle approche système avec votre système baptisé WISE.
Oui, alors ça c'est un système effectivement complet, comme je le disais tout à l'heure, qui va permettre en fait de maîtriser donc l'ensemble des systèmes de ventilation dans un bâtiment. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc la ventilation c'est super important. Donc on va pouvoir effectivement avec ce système-là contrôler réellement donc ce qui se passe au sein du bâtiment et puis adapter le fonctionnement des équipements aux besoins réels du bâtiment et à un instant T. Hein, donc avec un souci évidemment donc de qualité d'air intérieur, c'est ce qui nous conduit, c'est un des piliers je dirais forts de notre développement. Et puis le deuxième également donc en préservant sobriété énergétique, hein, donc puisque ça sert à rien de ventiler une salle de réunion où il n'y a personne par exemple, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment sur ces sujets là
comment on fait pratiquement, c'est-à-dire il y aura de l'intelligence embarquée dans les systèmes.
Il y a de l'intelligence embarquée dans les systèmes. Il y a même, je dirais, de l'intelligence un peu artificielle aussi, dans le sens où on va pouvoir travailler aussi sur des aspects un peu prédictifs, hein, que ça soit sur en intégrant la météo qu'il va faire demain, on va pouvoir anticiper le fonctionnement des équipements de ventilation et toutes ces choses-là. Et puis aussi toute la partie, effectivement, donc on en a parlé tout à l'heure, donc télémaintenance, maintenance prédictive, etc. Tous ces points-là qui sont extrêmement importants, à la fois pour garantir du confort dans le temps, dans la durée, hein, l'efficacité des équipements, et puis aussi toujours cette notion un peu de sobriété énergétique où on va pouvoir anticiper des dysfonctionnements et pouvoir les anticiper justement et intervenir avant.
D'ailleurs, ce sont des systèmes qui sont déjà mis en œuvre. Hein. On parlait tout à l'heure justement des bâtiments tertiaires et des établissements scolaires. Vous avez justement installé votre système WISE dans un collège à Toulouse.
Oui, alors effectivement, donc là, l'éducation est un grand sujet pour nous, est un point extrêmement important. Donc on est déjà relativement présent dans ce domaine-là dans les pays nordiques, et aujourd'hui on insiste beaucoup également, puisqu'on est tout à fait conscient de ce besoin, aussi bien dans les collèges, dans les lycées, mais aussi dans les crèches et les écoles maternelles. Et donc effectivement on fait la promotion de ce système-là, et nous avons quelques réalisations exemplaires qui commencent donc à se développer, donc notamment sur Toulouse, sur Béziers. On a quelques projets également sur la région parisienne qui sont en train de sortir avec ce système WISE.
Pascal Housset, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, justement.
Oui, tout à fait. Moi, je suis ravi quand je vois des industriels qui investissent dans le développement de produits, que ça soit dans le thermique d'ailleurs, hein, comme ça a été présenté précédemment, et dans la ventilation, bien entendu. Donc, on voit que ça évolue, et quand on a une concurrence intelligente et organisée, ça veut dire aussi que on a des développements produits, c'est-à-dire qu'il y a une recherche aussi, recherche et développement sur des systèmes à la fois plus performants et puis avec un aussi une connotation environnementale également qui est assez pointue. Donc nous ça nous va bien, et si je reprends quelques instants ma casquette en tant que président de l'UMGCP pour le génie climatique, on travaille nous sur ce sujet-là parce qu'on a un mode ce qu'on appelle prospective et innovation. Donc on est vraiment sur ces sujets. Donc on est en phase dans tous les cas.
Voilà, Swegon, donc, du coup, qui débarquera à Porte de Versailles en octobre.
C'est cela, avec grand plaisir.
Et on sera ravis de vous faire participer. On rappelle, hein, un plateau en bonne
radio,
et due forme,
ouais,
un plateau radio. Donc là aussi, on pourra rediscuter de ces innovations. On verra ça très prochainement.
En attendant Interclimat, le mot de l'expert.
Hugues, notre expert du mois, c'est Setiat, qui travaille beaucoup, hein, avec Uniclimat.
Oui, tout à fait. Le Setiat, c'est le bras armé pour les études d'Uniclimat. Donc le Setiat est basé à Lyon, avec une actualité particulièrement riche dans le domaine de l'aérolique. Et Benoît Golas va nous en parler.
Alors Benoît Golas, justement chargé d'affaires au Centre technique des industries aéroliques et thermiques, au sein de la direction, vous évoluez au sein de la direction études et prospectives de ces systèmes aéroliques. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que fait le Setiat?
Oui, bien sûr. Donc le Setiat, donc on est basé à Villeurbanne. On est notre mission, en fait, c'est d'accompagner les industriels dans le développement et la conception de leurs produits et solutions. On dispose pour ça de 10 000 m² de labos. Mmh. Et dans le cadre de la ventilation et de la qualité d'air, on a notamment de nos moyens d'essai de caractérisation de produits, notamment on va avoir un banc de filtration pour caractériser tout ce qui est filtre et épurateur d'air, on en parlait. On peut également faire caractérisation de composants aéroliques, des ventilateurs, des centrales de traitement d'air, mais également des systèmes complets. On peut tester l'ensemble du système de ventilation également. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être les essais privés pour les industriels. Et puis on réalise également ce qu'on appelle des actions collectives ou des projets de recherche qui sont des études un peu plus générales et là qui sont les résultats sont mis à disposition de l'ensemble de nos ressortissants. Ce sont des projets qui vont être plus longs, qui vont être sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, dont notamment des sujets sur la ventilation et la qualité d'air.
Batterie de test que donc vous pouvez réaliser, intéressant puisque sur les ventilateurs, débit pression, mais aussi très important sur l'acoustique.
L'acoustique, effectivement, au-delà de la qualité d'air, c'est même la qualité de l'environnement intérieur, c'est un point important également. Donc, on fait aussi des essais de caractérisation acoustique des produits également. Et puis, on a aussi toute une activité métrologie étalonnage pour pouvoir justement que nos industriels puissent également faire valider tous leurs appareils de mesure contrôlés.
Bien sûr. Alors, vous nous le disiez, ces études, justement, que vous menez, études collectives, dans le domaine de l'aérolique, vous venez d'en terminer une, justement, une étude collective sur la filtration. Quels sont les principaux enseignements?
Oui, on a mené, là, pendant 3 ans, de 2016 à 2019, une étude sur l'impact de la filtration sur les particules dans l'air intérieur, en fait. Et dans 4 logements, donc on s'intéressait au résidentiel, 4 sites habités, vraiment, on a fait des mesures du niveau de particules dans l'air extérieur, dans l'air insufflé et dans l'air intérieur. À chaque fois dans les logements, on faisait des campagnes de mesures sur 3 semaines avec différents niveaux de filtration. Et dans le cadre de cette étude, les résultats ont montré que la filtration, effectivement, permettait de réduire le niveau de particules dans l'air qu'on insufflait dans le logement. Mais on s'est aussi rendu compte que le niveau de particules dans le logement n'était pas que dépendant de l'air extérieur, mais qu'il y avait également un fort impact de l'activité des occupants, tout ce qui était notamment activité de cuisine, de ménage, tout ça qui pouvait forcément amener des pics de concentration. Cette étude montrait aussi la nécessité d'une ventilation, bien évidemment, dans le logement. Voilà. Ouais.
Intéressant, évidemment, ça dépend. Si on laisse son logement, qu'on part le matin, qu'on rentre le soir, on peut se dire, ça n'aura pas trop changé. En revanche, si on est, et on l'a été, et on est obligé de rester chez soi toute la journée, d'y travailler, d'y cuisiner, peut-être d'y faire du sport, pourquoi pas, et puis de faire un peu de ménage, là, ça, on ne doit pas avoir du tout les mêmes mesures, effectivement. Il faut en prendre en compte, en tout cas, on résume ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr, bien aéré, mais ce n'est pas exactement la même chose que bien ventilé. Alors justement, Benoît, on parle beaucoup de systèmes intelligents. La ventilation n'échappe pas à cette règle. Est-ce que l'électronique embarquée, on en parlait il y a un instant, va rendre les équipements plus efficaces en termes de qualité d'air intérieur?
C'est l'objet d'une étude qu'on a démarrée il y a maintenant un peu plus d'un an sur la ventilation intelligente et la qualité d'air intérieur. Puisqu'aujourd'hui, donc la ventilation intelligente, c'est une ventilation qui va s'adapter en permanence aux besoins. Et donc, on va faire ce qu'on appelle de la modulation de débit. On va réduire quand il y en a moins besoin, et puis l'augmenter justement là où il y en a besoin. Et c'est un double objectif, c'est de réduire malgré tout les consommations énergétiques, mais il faut malgré tout conserver une bonne qualité d'air intérieur, et c'est l'objet justement de cette étude, qui est une étude un peu longue, qui est sur 3 ans, 4 ans même, où on va... alors, il y a différents volets. On a notamment fait tout un travail sur tout ce qui était les capteurs, mesures de qualité d'air intérieur aujourd'hui, puisque c'est des produits avec lesquels doivent composer aujourd'hui les industriels, mais qui ne maîtrisent pas forcément, qui ne sont pas forcément fabricants. Et on a regardé tout ce qui est aujourd'hui existant, un état de l'art des produits disponibles sur le marché. On a regardé les technologies, mais également tout ce qui était l'aspect fiabilité de ces produits, qualité de mesure, besoin d'étalonnage, et puis comment utiliser les données de ces capteurs dans le cadre d'une ventilation intelligente. On regarde également tout ce qui est critères d'évaluation de la qualité d'air intérieur. Oui. Là-dessus, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'éléments disponibles, mais qu'il n'y a pas forcément de consensus. Quels sont aujourd'hui les polluants cibles, quelles sont les priorités de polluants, et puis comment évaluer la qualité d'air, quels sont les indices disponibles. Et puis on fera également par la suite tout ce qui est, on va faire des simulations numériques pour deux types de bâtiments avec différents scénarios d'occupation et donc d'émissions de polluants. Et on va mettre dans ces locaux, on va regarder avec pour différentes stratégies de modulation de débit quel va être l'impact en termes de qualité d'air et également en termes de consommation énergétique.
Voilà pour ces études. On termine avec justement ce test aussi que vous faites parfois de matériel. Et justement, vous êtes attaqué aux épurateurs d'air.
Oui, on va démarrer.
Ça en fait des choses.
Ça en fait des choses. Il y a beaucoup de sujets. On va démarrer une étude sur tout ce qui est épurateur d'air. Et le but, ça va être de proposer des bonnes pratiques pour les utilisateurs, notamment en termes de dimensionnement. Et puis regarder aussi également d'implantation des différents épurateurs au sein d'un logement. Ça va être par simulation, mais on va également faire des essais. D'abord des essais dans nos salles de réunion, et puis on va également faire des essais dans des écoles, notamment, si possible, voilà, avec différentes typologies d'épurateurs, et puis pour regarder un peu et proposer des bonnes pratiques.
Voilà, et ça va durer 36 mois, résultat du coup début 2025, c'est ça ?
C'est ça l'objectif, oui, tout à fait.
Bon, c'est assez long. C'est intéressant pour vous les uns et les autres d'avoir ces indicateurs, ces études collectives, Pascal Housset ?
Oui, bien sûr. On connaît bien le CITIAT, parce qu'on a d'ailleurs organisé notre premier séminaire dans les locaux. Donc, on les remercie encore d'ailleurs. Et oui, en fait, tout ce qui est certification, étude des solutions, ça permet d'aller sur à la fois les bons produits et les bonnes pratiques, de donner de l'intelligence au système. On voit l'évolution qu'il y a dans le thermique, on en parlait tout à l'heure, et si on l'a effectivement dans la ventilation, c'est une bonne chose. On va parler de plus en plus de ventilation mécanique, intelligente, contrôlée finalement. À terme, on va vers ces sujets-là. Donc oui, ça nous va bien. Et ça va engager de la formation. C'est-à-dire que nous, si on se met aussi du côté de nos professionnels, c'est important, parce qu'on a beaucoup parlé des solutions produits, mais quand on regarde du côté de nos professionnels, des acteurs de terrain et de la maintenance, c'est d'avoir aussi des entreprises qui soient bien formées. Donc quand il y a des centres de formation qui sont de proximité, c'est important aussi, ce partenariat avec les industriels. Parce qu'il faut former les gens. C'est-à-dire on peut avoir des super produits, mais il faut que les mises en œuvre soient à niveau et que la formation le soit aussi sur les bonnes pratiques et la bonne maintenance. Voilà.
Violaine.
Oui, les industriels, effectivement, que ce soit adhérents d'Uniclimat et ou ressortissants du CETIAT, sont très engagés dans cette partie. D'abord, ils sont très innovants, donc c'est vrai qu'il faut suivre derrière. C'est une complexité supplémentaire par rapport au manque de main-d'œuvre. Donc, faut suivre, oui. Mais il y a des outils, un certain nombre d'outils pour la formation, je dirais, continue. Et puis, nous, on insiste aussi pour que dès la formation initiale et dans plusieurs métiers, puisque vous voyez bien clair, c'est transverse, eh bien, que ce soit vraiment intégré dans les cours, que tout soit pris en compte pour que dès le début d'un projet ou de la rénovation ou du neuf ou on est en train de beaucoup parler de la modulation, enfin on change de un bâtiment, on lui donne un autre usage. Alors oui, à chaque fois l'air doit être présent dans les questionnements des acteurs de ces projets.
Voilà, vous vouliez réagir également, Bernard?
Bernard, peut-être, je sais pas.
Non, mais tout à fait, je pense que ce qui nous est présenté par le CETIAT est fondamental, puisque c'est élargir notre champ de compétences et d'expérience, et on en a tous besoin dans la chaîne de la ventilation, que l'on soit installateur, constructeur, mainteneur. Donc on a besoin de travailler, c'est un sujet, comme le dit Violaine, qui est le fil rouge, finalement, qui est au milieu de nos préoccupations, au centre de nos préoccupations. Donc, on a besoin de la recherche, on a besoin du CETIAT, qui est un super laboratoire à Villeurbanne, et on a besoin de toutes ces initiatives pour travailler ensemble et améliorer la qualité de l'air intérieur pour nos enfants, mais pas que.
Et pas que, pour nos anciens.
Pour nos anciens.
Et puis
pour
nous. Absolument. Voilà, même si Violaine le disait, on a souvent des. C'est vrai qu'on travaille dans des beaux locaux et avec de l'espace. N'oublions pas, effectivement, les plus jeunes et aussi les plus anciens. Un sujet crucial, la qualité de l'air intérieur. Et on n'a pas fini d'en discuter. Et en tout cas, on découvrira toutes ces innovations, en tout cas ceux qui travaillent sur ces nouveaux produits, sur Interclimat. Merci à l'ensemble de nos invités. On remercie Pascal Housset, président de l'Association française de la ventilation. Johan Roy, directeur commercial d'LG Electronics, Bernard Avalé, directeur général de Swegon, et Benoît Golaz, chargé d'affaires au CETIAT. Violaine, on vous retrouve dès le mois prochain.
Tout à fait.
Chargé de communication Uniclimat, ainsi que Hugues, chargé de commission Interclimat par Uniclimat. Baptiste Pouchard a réalisé cette émission. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve également très prochainement pour un nouveau numéro d'En attendant Interclimat.
En attendant Interclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.